La météo un peu chahutée de ce week-end n'aura certainement pas surpris les dizaines de météorologues amateurs qui essaiment en Suisse romande. Et oui, on est, dit-on, jamais mieux servi que par soi-même. Alors qui sont ces passionnés de météo? Comment s'y prennent-ils pour faire leurs propres prévisions? On en parle s'y était intéressé en septembre 2011. Pour cette seconde demi-heure, je vous propose de nous replonger dans cette drôle de passion en nouvelle diffusion, un dossier de Christophe Canu.
Oui, mais tout d'abord, avant d'en parler, est-ce que vous avez un ordinateur chez
J'ai
vous?
J'ai un ordinateur.
Et
oui.
Donc, j'imagine, un abonnement à Internet.
Oui.
Donc, vous pourriez créer votre propre site météo amateur achetant, voilà, ça suffit. Enfin, il faut quand même acheter une petite station électronique, ce qu'a déjà fait une cinquantaine de météorologues amateurs en Suisse romande, si l'on en croit le journal 24 heures. Mais c'est difficile d'être précis, car il n'y a pas de statistiques officielles à ce sujet.
Et qu'est-ce qui explique cet engouement pour la météo amateur?
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'engouement ou de plus grande visibilité, car ça a sans doute toujours été un peu comme ça. Moi, par exemple, quand j'étais à l'école, je me rappelle qu'on n'avait pas le droit de rentrer en classe, mais si c'était comme ça, tant qu'on n'avait pas trouvé le sens du vent, relevé la température ou encore décrypté le baromètre.
Bah dites donc, vous étiez dans quelle école vous?
Non, mais autant vous dire donc que je mettais du temps parfois à rentrer, à rejoindre mes camarades. En fait, non, ce qui a changé, c'est la technologie utilisée, à mon avis. On va faire un petit tour d'horizon d'une installation moderne à Payerne, sous la houlette de Philippe Henry, un passionné de météo qui a fondé le site Météo Payerne Ouest.
Voilà, je suis en train de vous démonter un pluviomètre de modèle Hellmann. Ce pluviomètre est composé d'un cylindre et d'un autre cylindre qui s'insère dessus. À l'intérieur, nous avons un petit entonnoir qui va collecter l'eau de pluie dans un récipient. Et ce récipient va pouvoir être vidé dans une éprouvette graduée au dixième de millimètre. À l'époque, ces mesures étaient faites tous les matins vers 7 heures. L'avantage de l'électronique, c'est qu'on n'a pas besoin de s'en occuper tous les jours. Les données sont transférées à peu près toutes les minutes sur l'ordinateur, voire toutes les 10 minutes sur le site.
Tout est automatique.
Là, tout est automatique. C'est le grand avantage, on peut rester au lit. Cette station manquait de précision par rapport à ce qu'on voulait faire avec, et puis surtout de fiabilité. Sur la station plus récente, qui a été achetée en 2006, elle mesure donc les valeurs conventionnelles, c'est-à-dire température, humidité de l'air, pression atmosphérique, vitesse du vent sur un mât de 10 mètres, qui est aux normes selon l'OMM.
L'OMM, c'est ?
C'est l'Organisation Météorologique Mondiale, qui fixe justement ces normes, et puis pluviométrie.
Ça coûte combien, cette installation ?
Lors d'une station comme celle-ci, initialement, c'était 3000 francs.
Et aujourd'hui ?
C'est de l'ordre de moitié. Et c'est des stations semi-professionnelles, qui sont très fiables, qui tournent depuis de nombreuses années sans trop de problèmes.
Quand vous dites semi-professionnel, c'est-à-dire
C'est-à-dire que les stations professionnelles vont se situer dans une autre gamme de prix de l'ordre de 20 000 francs.
Et quelqu'un qui veut se lancer
Ça dépend quelle gamme de stations il veut pour démarrer. Si c'est juste pour faire un essai, pour s'amuser, il peut trouver déjà des stations de l'ordre d'une centaine de francs. Mais maintenant, c'est un peu dommage de garder une station toute seule dans son coin. L'idéal, c'est de pouvoir faire des relevés qui vont être transmis sur un PC, voire sur un site internet, si vous avez envie de les partager. Mais maintenant, on a le cas, par exemple, de maraîchers qui ont souhaité avoir la température au niveau de leur salade. Alors, ils ont demandé à un de mes collègues en Valais d'installer une station météorologique à 30 cm du sol.
Parce que qu'est-ce qu'ils voulaient savoir?
Et parce que justement, ce qui les intéresse, c'est à quel moment leurs légumes sont, par exemple, en danger de gel. Ce qui compte, c'est de mesurer les paramètres de l'endroit. Pour nous, en tout cas, en tant qu'amateurs, le but, c'est d'avoir le plus de stations possible, parce que les gens vont forcément passer d'une station à l'autre et seront forcément concernés, à un moment ou à un autre, par la station qui est proche de chez eux. Et c'est tout bénéfice pour tout le monde, finalement, d'avoir le plus de stations possible. Maintenant, en tant qu'amateur, on a cette liberté, puisque nous, on ne garantit rien. Il faut être bien conscient qu'on ne peut pas s'engager. Par exemple, si vous avez un problème de tempête, de vent, les gens nous contactent parfois en nous disant « Ouais, il a fait quelle vitesse de vent chez vous ?» On peut répondre, mais c'est juste une valeur indicative. On ne pourra jamais aller devant un tribunal, par exemple, avec ça. Il n'y a que les instances officielles qui peuvent vous donner des valeurs qui sont vraiment fiables. Et puis, pour nous, ça nous dégage aussi d'une grande responsabilité.
Parce que vos valeurs ne sont pas fiables ?
C'est-à-dire que nos valeurs sont fiables, mais on ne peut pas les garantir. Vous imaginez sur le plan juridique où on pourrait déboucher.
Alors là, par exemple, pour qu'on se rende compte, vous prévoyez quel temps ici à Payerne ?
On va avoir aujourd'hui un temps qui est actuellement couvert avec une couverture de stratus qui vont se situer, je pense, à peu près à 900 mètres. Et puis, dans la journée, ce stratus va être déchiré par la température de l'air qui va s'élever grâce au soleil. L'anticyclone des Açores est bien présent. J'ai vu tout à l'heure une pression de l'ordre de 1021 hectopascal. Donc, au-dessus de 1013, on est anticyclonique. Donc, on est dans une phase tout à fait favorable. Donc, on a du bon en perspective.
À noter que Philippe Henry ne parlait pas d'aujourd'hui quand vous l'avez interviewé.
Non, je l'ai rencontré jeudi dernier.
Voilà, donc c'était quand même il y a quelques jours. Hein. On le sent d'ailleurs, il est passionné, hein, Philippe Henry. Mais sa passion a un prix, 1500 francs, c'est quand même une somme importante.
Hein. Oui, mais il disait aussi qu'on pouvait commencer plus modestement avec un investissement de 100 francs. J'ai même trouvé des stations amateurs sur Internet à 20 francs. Mais tout ne se vaut pas forcément. Frédéric Genevet, enseignant et utilisateur de stations météo à l'école.
Le choix va dépendre de ce que vous voulez mesurer. Si vous voulez simplement mesurer une température extérieure, vous pouvez prendre un petit thermomètre à 20-30 francs avec une sonde extérieure qui transmet en sans fil. C'est pas très précis, mais ça suffit déjà largement. Si au contraire, vous voulez avoir quelques informations supplémentaires, aux alentours de 100 francs, vous trouverez des petites stations qui ont un baromètre, un hygromètre et qui ont aussi une petite sonde extérieure qui va mesurer la température et en général l'humidité. Par contre, si vous voulez pouvoir commencer à mesurer des vraies données météorologiques beaucoup plus précises, mais surtout le vent, la pluie, on va entrer là dans une gamme de prix aux alentours de 200 francs, où vous trouverez du matériel, que ce soit par exemple de marque Oregon ou de marque Lacrosse Technology, qui permettent de mesurer température, l'humidité, mais aussi la pluie, la vitesse du vent et aussi la direction du vent. Enfin, si on veut aller un petit peu plus loin et surtout pouvoir récupérer ces données, voire les publier sur Internet, il vous faut une station qui soit capable de se connecter à un ordinateur. L'ordre de prix ici, on commence vers 200 francs et ça monte jusqu'à au-delà de 2000 francs.
Quand vous dites que ça peut aller jusqu'à 2000 francs, ça inclut tout le système de l'enregistrement des données à la publication sur Internet?
Non, il faut en général acheter un logiciel à côté. On trouve des logiciels qui sont entre 100 et 200 francs. Et à côté de ça, n'oubliez pas qu'il faut aussi installer la station. Donc il faut poser un mât qui n'est pas fourni avec pour pouvoir mettre dessus l'anémomètre et la girouette.
Et on peut aussi complexifier, rajouter d'autres éléments?
On peut aller beaucoup plus loin. Si on prend les stations semi-amateurs, on va pouvoir ajouter encore des capteurs UV pour mesurer l'ensoleillement, par exemple.
Le rayonnement.
Et le rayonnement UV. On peut aussi mettre des capteurs de mesure de l'humidité du sol, qui peut servir par la suite à déclencher un arrosage automatique.
Donc on ne voit pas que ça n'est... Enfin, on voit que ça n'est pas qu'une passion pour, justement, pour des gens qui sont un peu fadas de la météo.
Non, oui, il y a des choses quand même très, très simples.
Voilà, et puis il y a une vraie utilité. Hein. On parle ici d'arrosage automatique. Philippe Henry parlait de risque de gel au sol. On voit que justement qu'il y a une utilité finalement à...
Pratique aussi, tout à fait.
Voilà, une utilité pratique à prévoir la météo de façon très, très locale. Pour autant, évidemment, que ces données soient publiées, hein, soient accessibles à tout un chacun. Alors, je peux assez facilement publier mes relevés sur Internet, mais comment dois-je m'y prendre concrètement, Christophe?
Et on retourne sur le terrain à Payerne. Voilà. Alors, un changement de décor, Philippe Henry.
Voilà, donc je vous ai mis face à mon PC portable. Voilà.
Vous venez de taper l'adresse de votre site météopayerneouest.com.
Voilà. Météopayerneouest, pourquoi? Simplement parce qu'on se situe exactement à l'ouest de l'abbatiale.
Bienvenue, station amateur. Les données sont mises à jour toutes les 15 minutes environ. J'ai fait ce site motivé par l'idée de garder une trace des journées ensoleillées, des ondées, bourrasques et autres frasques de dame nature. Voilà. Alors là, on est sur votre site. Qu'est-ce qui se passe? Donc tout à l'heure, on était dehors, dans votre jardin, au pied de la station météo. Comment on passe de la station à l'ordinateur?
Alors, on passe de la station à l'ordinateur de la manière suivante. Les capteurs sont reliés à ce qu'on appelle une console. Cette console est elle-même reliée à un PC. Et puis, à partir de là, ces données sont envoyées sur un serveur. De là, tout le monde peut consulter ces données sur le site.
Parce qu'en fait, là, si je comprends bien, votre site actualise des données régulièrement, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de prévoir le temps.
Voilà. Alors, personnellement, je ne fais pas de prévision, ou qu'occasionnellement, selon nos propres besoins. Mais j'ai des collègues, par exemple Météorbe, pour qui c'est un plaisir de faire des prévisions. Et vous pouvez, sur son site, sans autre, consulter les prévisions à 3 jours. Hein, on va le faire, on va aller voir, si vous voulez. Alors, si on regarde, Météorbe nous donne des prévisions à 3 jours.
Et tout ceci de manière entièrement gratuite.
Et comment il prévoit le temps, alors?
Alors lui, il va s'intéresser justement à la collecte au sens large des données de beaucoup de stations, et y compris des satellites et des ballons-sondes. Et l'ensemble de ces données va permettre d'alimenter ce qu'on appelle les supercalculateurs qui vont, eux, permettre de donner des modèles numériques qui vont, eux, être interprétés par les prévisionnistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Faire des prévisions, il faut savoir que ça demande un peu de temps tous les jours. Un peu de temps, je veux dire un peu de temps, c'est au moins une demi-heure par jour. Et c'est, ben, précisément, c'est de bonne heure le matin. Alors vous n'êtes pas forcément disponible. C'est pour ça qu'après, il faut suivre, parce que les gens sont un peu vite demandeurs, ils s'habituent. Donc personnellement, j'ai des horaires irréguliers et tout ça. Je ne me suis jamais lancé dans cette aventure parce que je n'arriverai pas à être suffisamment, je dirais, fiable au niveau de du suivi.
Et vous savez le nombre de visiteurs qui viennent chaque jour sur votre site?
D'après les statistiques du serveur, c'est de l'ordre de 500 personnes par jour.
Est-ce que vous avez le souvenir d'une journée où il y a eu un décalage entre vos propres relevés et ceux de Météo Suisse?
Par exemple, tenez, dimanche passé, ils nous annonçaient l'après-midi plus ensoleillé. En réalité, on a eu beaucoup plus d'averses. Bon, c'est un petit écart, mais enfin...
Et vous, alors, quelles étaient vos prévisions?
Ah, moi, je n'avais pas fait de prévision pour dimanche.
C'est vrai?
Dimanche, j'ai fait la fête.
Oui, c'est aussi ça qui distingue un amateur d'un professionnel. Hein. Un amateur peut faire la fête plutôt que de travailler.
Ça donne envie. Hein.
Ça donne envie de faire ça, effectivement. Et justement, Christophe Canu, comment les professionnels perçoivent-ils ces amateurs?
Pas très bien, en fait. Hein. Avec indifférence, voire méfiance, si l'on en croit l'article que 24 heures a consacré à ce sujet en 2005. Mais les choses évoluent. Pierre Eckert, chef du Centre régional de Météo Suisse à Genève.
Disons, le flux d'informations passait, en tout cas historiquement, plutôt dans le sens d'avoir un service météorologique et des gens qui utilisent ces informations météorologiques. Il est vrai que maintenant, on commence peut-être à avoir un peu plus d'interactions et d'utiliser aussi, à l'intérieur d'un service météorologique, des observations qui sont faites par des amateurs. Et ça peut être utile dans certaines situations de regarder si derrière le Jura, il a déjà commencé à neiger. C'est un type d'information qu'on peut recueillir de la part d'un réseau amateur et qui est plus difficile à obtenir de la part d'observations officielles. On le regarde pas systématiquement, c'est pas toujours extrêmement fiable. On préfère utiliser le réseau de Météo France, mais par exemple, le réseau de Météo France n'est pas extrêmement dense, par exemple, en observation de neige qui tombe. Et ça peut être utile dans certaines situations de regarder si derrière le Jura, il a déjà commencé à neiger. Disons que le réseau de Météo France, il a la densité qu'il a, il n'est pas forcément extrêmement élevé. Il y a un certain nombre d'observations qui sont très fiables, qui sont faites toutes les 3 heures. Maintenant, si on va sur un site amateur, on aura peut-être des observations un peu plus fréquentes et puis des observations qui sont plus denses dans l'espace. Il y aura plus d'observations disponibles avec une fiabilité plus basse. Voilà, donc l'un dans l'autre, il faut utiliser une combinaison des deux.
En fait, l'utilisation de technologies de plus en plus performantes comme les satellites ne règle pas tout, car en cas de forte purée de poids ou de certains types de nuages, les satellites sont aveugles. La seule solution pour savoir, par exemple, s'il a neigé ou pas, c'est de faire appel à des observateurs amateurs qui vont directement mesurer sur le terrain la quantité de neige qui est tombée à tel endroit ou tel autre. Dans ce cas, les professionnels de Météo Suisse n'hésitent pas à aller consulter des sites comme météociel.fr qui recensent ces relevés.
Et les réseaux sociaux, Christophe Canu, on ne les utilise pas?
Ah si, de plus en plus, Météo Suisse est sur Facebook. Le principe est simple, un internaute cherche à savoir s'il va pleuvoir ce soir chez lui, un autre lui donne son avis et un professionnel de Météo Suisse sert d'arbitre.
Et il n'existe pas d'autres sites qui proposent ce type d'interface entre amateurs et professionnels?
Alors si, une ribambelle. Le plus connu est un site américain, wonderground.com, qui compile des données du monde entier et en plus possède une version française. Et puis plus près de nous, il y a météovalais.ch. Alors rien à voir bien sûr avec l'ambition de son homologue américain, mais il n'empêche que c'est le premier site interactif en Suisse romande et le seul à ma connaissance de ce type. Il a été lancé il y a 3 ans à Sion par Robert Bolognesi, météorologue professionnel indépendant et directeur du bureau d'études Météorisque.
On a considéré que dans le domaine de la météorologie, déjà, il y a beaucoup de gens qui font de l'observation alors qu'on ne le sait même pas. Moi, j'avais découvert il y a quelques années en arrière des gens qui relevaient des hauteurs de neige devant chez eux depuis des années. Les mêmes relevés étaient faits par leurs parents et même par leurs grands-parents. Donc c'était des gens qui, en réalité, avaient des sortes de bases de données météo extrêmement riches, très régulières et très très bien suivies. Tous les agriculteurs observent le ciel en permanence. Donc en fait, on a un gisement de données météo en Valais, en région de montagne en général, qui est très très riche. Donc on a voulu offrir la possibilité de partager ces données, ce qui fait que tout un chacun peut, lorsqu'il observe un phénomène météo particulier, le mettre à disposition des autres par l'intermédiaire du site.
Et comment ça marche alors ?
On peut publier simplement un message. Imaginons qu'on se trouve en montagne, les gens sont montés peut-être au Mayen pour le week-end. Là, ils ont une connexion Internet, ils voient que le temps est beau. Ils peuvent simplement venir sur cette page observation, cliquer sur l'option message. Et là, on a une fenêtre qui s'ouvre. Donc là, on peut indiquer son lieu, on peut indiquer l'altitude à laquelle on fait cette observation. Ici, on voit le type de temps qui peut être indiqué avec une grande diversité. Par exemple, on a beau avec cumulus sur les sommets, brouillard, brouillard épais, brouillard givrant, brumeux, ciel clair, etc. Enfin, on a un code correspondant parce que certains des correspondants du site sont agréés, c'est-à-dire qu'on sait que leurs informations sont fiables, donc on peut vraiment leur faire confiance. Ça fait un petit peu la distinction entre le pur visiteur et puis le correspondant habituel du site. Une fois qu'on a rempli ces champs, il suffit de cliquer sur le bouton « Publier » et le message est automatiquement mis en ligne, en temps réel. Et puis on a une autre possibilité qui consiste à envoyer une image depuis un iPhone ou un autre smartphone. Ici, par exemple, la dernière image reçue date d'aujourd'hui, 22h09 à 12h24, qui montre le Pindarola, visiblement envoyé depuis le Val d'Airain. Et on voit un ciel qui est presque parfaitement bleu, quelques petits cirrus. Et on a, de cette façon, une possibilité de donner une information météo sans mots, uniquement en envoyant une image depuis son iPhone.
Mais à quoi ça sert ce type de message ou de photographie ? Parce que le but, c'est la prévision. Là, on est dans l'instantané.
Alors, pour moi, la météorologie, il y a de la prévision et de l'instantané. La prévision est intéressante quand on est au lieu de la prévision. Mais on peut imaginer que nous, maintenant, on se trouve à Genève et on aimerait bien savoir quel est le temps réel en Valais. Et là, c'est l'instantané qui est intéressant.
Si j'ai bien compris, Christophe Canu, je peux participer même si je n'habite pas toute l'année en Valais.
Vous avez bien compris.
Oui, c'est une idée intéressante, mais pourquoi s'en tenir au seul Valais ? Pourquoi ne pas créer un site ouvert à toute la Suisse romande ?
Pour des raisons à la fois financières et pratiques. Financières, car cela demande du temps, du personnel et de l'énergie de s'occuper quotidiennement d'un tel site. Pratique, car les conditions météo varient énormément d'une vallée à une autre en Valais, du fait de la topographie du canton. Plus il y aura d'observateurs, meilleures seront les prévisions. On a moins besoin en fait, d'un tel réseau dans les cantons de plaine.
En même temps, les professionnels peuvent-ils réellement faire confiance aux amateurs ?
Oui, on peut effectivement se poser la question. Un amateur a appris sur le tas ou dans les livres, alors qu'un professionnel est un scientifique qui a fait des études supérieures et qui a eu une formation spécifique. Et puis, le matériel utilisé n'a rien à voir en termes de qualité et de précision. Robert Bolognesi.
Oui, il y a des limites, dans le sens où dans l'idéal, il faudrait que toutes les informations soient prises selon le même protocole pour être parfaitement comparables. Mais quand on tient ce discours, c'est qu'on est vraiment, je dirais, quelque part ultra-perfectionniste, parce qu'une information qui va être relevée au fond d'une vallée où on n'a aucune information, si elle n'est pas relevée strictement selon le protocole international, à mon sens, c'est pas trop grave, parce que c'est déjà tellement intéressant de l'obtenir qu'on peut tout à fait s'en contenter. Et puis d'autre part, dans la modélisation qu'on va lancer derrière cette observation, on sait qu'on a des marges d'imprécision qui sont grandes, la plupart du temps qui seront plus grandes que l'imprécision qui porte sur la mesure. Donc je dirais, faut pas être plus royaliste que le roi, et même si toutes les données sont pas relevées avec le protocole idéal, elles sont quand même toujours très intéressantes.
Vous savez si les sites amateurs sont fiables ou pas ?
Non, ça reste encore tout à fait ouvert. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que c'est le public qui est le juge. S'il vient sur un site et qu'il y trouve de l'information qui l'intéresse et qu'il la trouve fiable et qu'il n'est pas déçu, il revient. Il en parle dans son entourage et la fréquentation du site augmente. Donc le vrai baromètre, c'est l'utilisation du site. Maintenant, c'est très difficile de valider les données météo. Nous, on essaye de le faire chaque jour et on classe les journées en 6 catégories et on vérifie si la prévision de la veille correspond au temps du jour. Alors après, on peut dresser des statistiques, mais vous voyez, c'est difficile parce que, admettons qu'on ait prévu du beau temps et que dans l'après-midi, on ait un passage nuageux qui dure 3-4 heures. Est-ce qu'on dit que c'était quand même une journée de beau temps parce que le soleil a brillé la plupart du temps, ou est-ce qu'on dit non, c'est pas une vraie journée de beau temps parce qu'il y a quand même eu ces nuages ? Donc il y a des cas où c'est assez difficile d'évaluer correctement si la prévision était juste ou pas juste.
Eh oui, c'est pas toujours simple hein, de faire la météo, de faire la pluie et le beau temps. Christophe Canut, peut-on établir un palmarès des sites météo les plus visités ?
Alors, il n'y a pas photo, c'est sûr, entre les 500 visiteurs quotidiens de Météo Payerne-Ouest et les dizaines de milliers de météo suisses. Mais les amateurs s'en sortent avec les honneurs. L'un des plus visités de sites, l'un des plus riches aussi, est le site météolausanne.com, avec certains jours plus de 2000 visiteurs. Et en ce qui concerne Météo Valais, la moyenne se situe à 1500 visiteurs jour, avec des pointes à 8000 certaines veilles de week-end.
J'imagine qu'on retrouve tous ces liens sur notre site internet.
Oui, et j'ai aussi ajouté le site de l'Association Suisse des Météorologues Amateurs, l'ASMA, qui regroupe une petite vingtaine de passionnés avides de partager leur savoir et savoir-faire.